BFM Business, midi, leur H. Présenté par Edwige Chevrillon.
Bonjour à tous, bienvenue ici dans les studios de BFM Business après Davos. Voilà, on va parler, retour à l'actualité française, du chômage avec les chiffres qui viennent de tomber, qui sont plutôt bons. On en parlera avec Stéphane Carcio, qui est chef du département emploi et revenus à l'OCDE. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Ensuite, c'est Dominique Moisy, qui est conseiller spécial à l'Institut Montaigne, évidemment membre du club de l'Orage. On verra avec lui, c'est, faut-il dire maintenant pauvre Grande-Bretagne ou faut-il dire pauvre Europe? On verra ça avec lui. Et puis ensuite, c'est Louis Gallois qui sera avec nous. Il est président du conseil de surveillance de PSA et il est coprésident de la fabrique de l'industrie. Est-ce qu'on peut se réjouir ou pas du Brexit? Qu'est-ce qui se passe du côté des constructeurs automobiles? On verra ça, mais pour l'instant, on passe à l'actualité avec Aurélie Planex qui nous la porte aujourd'hui. Bonjour Aurélie, bienvenue.
Bonjour Edwige, bonjour à tous. Le nombre de demandeurs d'emploi a reculé de 3,1% en catégorie A au quatrième trimestre, chiffre publié à l'instant par Pôle emploi. Ça représente à peu près 100 000 demandeurs d'emploi en moins par rapport au quatrième trimestre 2018. Selon Pôle emploi, 3 308 000 personnes n'exercent actuellement aucune activité. L'OPA de Capgemini sur Altran est un succès. Selon l'autorité des marchés financiers, Capgemini détient désormais plus de 53% du capital et des droits de vote d'Altran. L'opération doit donner naissance à un nouveau géant mondial des services et du conseil informatique avec 17 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Alstom étudie bien un rapprochement avec Bombardier et le sujet sera au cœur d'un conseil d'administration demain. Le constructeur canadien lourdement endetté cherche à tout prix un partenaire pour fusionner ses activités dans le rail et selon les informations de BFM Business, Alstom serait prêt à débourser quasiment 5 milliards d'euros en cash pour cette opération. C'est Henri Poupard-Lafarge, le patron d'Alstom, qui prendrait la tête du nouvel ensemble. Renault, de son côté, tente de relancer l'alliance avec Nissan. Selon Reuters, le patron de la R&D de Renault va se rendre au Japon cette semaine pour parler de projets communs aux deux constructeurs. Des annonces concrètes sont attendues ce jeudi. Louis Vuitton reste la marque française la plus puissante. C'est ce qui ressort du classement Brandy, publié ce matin par Kantar. Classement trusté par le secteur du luxe, puisque Chanel et Hermès complètent le podium. Les cadres ont le moral en berne. Le baromètre des décideurs Via Voice HEC pour BFM Business marque un recul de 3 points. Les cadres sont de plus en plus inquiets sur une possible remontée du chômage. Ils sont aussi plus nombreux à anticiper une dégradation de leur niveau de vie cette année. UFC Que Choisir attaque Last Minute pour pratiques commerciales illicites. Selon l'association de consommateurs, le voyagiste en ligne a mis en place une fenêtre pop-up qui détourne l'attention des consommateurs et leur fait souscrire l'assurance la plus chère sans qu'ils s'en rendre compte. On termine avec les marchés, toujours impactés par l'épidémie de coronavirus en Chine. Le bilan se monte maintenant à 80 morts, 2744 cas confirmés. À Tokyo, le Nikkei a clôturé en baisse de plus de 2% ce matin. Du côté du CAC 40, on est aussi en très nette baisse actuellement. On perd un peu plus de 2%, moins 2,3%, 5884 points. Un coup d'œil sur les devises, l'euro-dollar 1,1026. BFM Business, il est 12h03.
Merci beaucoup Aurélie. Bien sûr Aurélie, on vous retrouve à 12h30 pour un rappel des titres. Tout de suite, faut-il se réjouir des chiffres de l'emploi qui viennent tomber? On voit ça avec Stéphane Carcio.
BFM Business, l'heure H, la question du jour.
Stéphane Carcio, merci d'être avec nous. Je rappelle, vous êtes chef du département emploi et revenus à l'OCDE. Les chiffres là sont tombés, sont tout frais. Chiffre de la DARES qui montre quand même un recul donc du chômage, moins 1,7% pour le trimestre et en l'occurrence moins 3,1% sur un an. Ce sont des bons chiffres, des chiffres corrects, des chiffres assez étonnants.
Oui, c'est plutôt des bons chiffres, effectivement. La tendance à la baisse se poursuit du chômage en France. Une des raisons, c'est que on continue à créer plus d'emplois, effectivement, que par le passé, notamment sous l'effet de beaucoup de réformes, notamment le fait que beaucoup d'emplois ont été rendus plus viables grâce à un abaissement du coût du travail, notamment au niveau du SMIC en France. Et puis aussi, peut-être, on n'est pas encore certain, grâce à certaines réformes structurelles comme celle des ordonnances sur le code du travail qui, comme on le voit aussi dans les statistiques détaillées des embauches, renforcent les embauches en CDI. Donc ces éléments, ces changements structurels du marché du travail, en fait, permettent de créer plus d'emplois avec un point de croissance du PIB qu'il y a 10 ou 20 ans. Ça, c'est vraiment l'élément structurel et il faut s'en réjouir. Donc, ça veut dire que pour l'année qui vient, la tendance continue à la baisse. Si la croissance reste autour de 1,2, 1,3, comme c'est aujourd'hui les prévisions, on devrait continuer à avoir une tendance, effectivement, baissière du chômage.
Oui, donc ça, c'est... Alors, donc, ça veut dire que pour vous, à l'OCDE, les réformes du marché du travail qui ont été faites par Myriam El Khomri et Muriel Pénicaud, elles portent leurs fruits parce que, justement, disons, il y a une espèce de tam-tam en disant finalement, ça ne porte pas aussi bien les fruits que ce à quoi on pouvait s'attendre. Vous nous dites, non, il y a des réformes de structure qui ont un impact sur ces bons chiffres du chômage.
Alors, quand on regarde effectivement l'ampleur de ces réformes, elles ont clairement un effet net sur les réglementations. Quand on regarde, y compris les réformes sur le coût du travail, il y a aussi un effet très net sur le coût du travail, notamment au niveau du salaire minimum. Maintenant, l'impact lui-même, tel qu'on peut le mesurer à travers les données, il est encore un peu trop tôt pour l'identifier, mais ça va clairement dans le bon sens et ça contribue à booster les créations d'emplois. Cela étant dit, quand on regarde aujourd'hui la situation de la France par rapport à d'autres pays européens, le chômage reste encore élevé. Il faut dire que dans la plupart des pays de l'OCDE, le chômage n'est en fait plus un problème. On est aux alentours de 5-6% de chômage à peu près partout. En Europe, avec un peu plus de 8% de chômage, la France se situe encore dans le tiers des pays où le chômage est le plus élevé et même encore dans le peloton de tête. Il y a guère que la Grèce, l'Italie ou l'Espagne aujourd'hui pour avoir un taux de chômage plus élevé. Et ça veut dire qu'aujourd'hui en France, le taux de chômage structurel, c'est-à-dire le taux de chômage en dessous duquel il est difficile de descendre sans augmenter l'inflation et avoir des fortes tensions sur le marché du travail, il est élevé. On estime qu'il se situe autour de 7,5-8% de chômage. Donc il va falloir encore faire des réformes pour pouvoir abaisser ce taux de chômage.
Donc 7,5-8% chez nous, chez les autres
Chez les autres, vous savez, le taux de chômage, par exemple, dans beaucoup des pays du nord de l'Europe...
3% en Grande-Bretagne,
oui,
par exemple.
Quasiment. On est à 3%. Dans les pays du nord de l'Europe, au Danemark ou en Norvège, on est autour de 5%. Donc beaucoup de pays d'Europe, en fait, le taux de chômage a baissé vraiment fortement sans qu'il y ait de tension inflationniste. Donc ça veut dire que le taux de chômage structurel est beaucoup plus bas dans ces pays que chez nous. Et chez nous, on voit bien que les employeurs commencent déjà à avoir de sérieux problèmes pour recruter. Oui, on le voit dans les enquêtes. Donc, en fait, ils y sont en train de toucher un socle. Ils ont des difficultés pour trouver les bonnes compétences. Et ça fait écho au fait qu'il y a mais ça, on le sait depuis longtemps, parce qu'il y a eu des réformes dans ce domaine, on a un problème de compétences et de formation professionnelle qui peut freiner à la baisse.
C'est ce que disait Muriel Pénicaud lorsque je l'ai reçue mercredi dernier, la ministre du Travail en direct de Davos. Elle me disait qu'en fait, la formation, du reste, c'est un des thèmes de Davos. C'est la formation, comment former les gens pour que les remettent au travail, que les seniors aussi soient au travail et de faire que le chômage baisse. Parce qu'en fait, en France, on a du mal à recruter, mais en même temps, on a un chômage très élevé.
C'est voilà.
Tout l'enjeu de, je dirais presque, des mois à venir, non ?
Exactement, c'est un des enjeux effectivement des mois à venir. Je dirais qu'il y a trois enjeux, c'est vraiment les compétences et la formation. Il y a un gros plan quand même d'investissement en compétences, 15 milliards, donc il va falloir que ça porte ses fruits.
Deuxième enjeu... on a du mal à le voir venir. Non
oui, on a du mal à...
Effectivement. Autant sur l'apprentissage, on voit déjà que ça commence à bouger.
Voilà.
Alors sur le plan compétences, moi je ne vois rien.
Exactement. On a envie d'avoir déjà, on a envie de voir ce qui se passe, on a envie de savoir ce qui se passe sur le terrain pour la formation, parce que c'est un enjeu vraiment important. Deuxième enjeu, la mobilité. On a des grosses disparités régionales et même locales dans les taux de chômage. Il y a des emplois qui sont dans une ville et des chômeurs qui sont dans une autre. Et on a un besoin d'appariement, comme pour utiliser ce terme technique, c'est-à-dire faire déplacer les chômeurs quand ils le peuvent, les aider, les informer sur les opportunités d'emploi ailleurs, les aider pour trouver un logement, pour bouger, etc. Ça, c'est un gros enjeu, la mobilité, aussi dans le contexte français, pour réduire ce socle du chômage incompressible.
Stéphane Carcio, vous occupez d'emploi et des revenus à l'OCDE. Un instant sur le revenu. Je ne sais pas si vous avez vu ce sondage qui montre que quand même le moral des cadres est en berne, d'inquiétude sur leur boulot, mais sur leurs revenus futurs et peut-être aussi les retraites. Est-ce que vous observez une baisse des revenus chez les cadres ou pas? Et comment on se positionne par rapport aux autres membres de l'OCDE?
Alors, les salaires en France ont pas baissé, soyons très clairs. Ils ont même été relativement dynamiques. Ils augmentent plus que l'inflation.
C'est combien?
Je crois que la progression est plutôt autour de 3%.
Enfin, oui, c'est ça, j'ai 3,9, voilà, c'est ça. Que j'avais en tête.
Pour mais la France. Ce qui se passe, c'est que depuis quelques années, les salaires dans les pays de l'OCDE, y compris en France, progressent de manière... ils progressent, mais ils progressent moins vite que la productivité. Donc, il y a une sorte de découplage entre productivité et salaire. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, notamment des changements structurels importants dans les emplois, aussi un affaiblissement des syndicats dans beaucoup de pays, donc des difficultés à négocier sur les salaires. Et ce sont des tendances qui sont structurelles. D'autres choses qui, effectivement, créent des inquiétudes sur la dynamique des salaires, c'est évidemment les retraites, c'est les signaux sur l'alourdissement, effectivement, du financement de la protection sociale. Donc la réforme de la protection sociale, c'est aussi très important, le fait de montrer qu'en fait, on a une trajectoire qui est stable avec un système qui est financé. Ça permettra aussi de rassurer notamment les cadres.
La réforme des retraites, on peut en dire un mot ?
Bien sûr.
La réforme des retraites, c'est quand même... ce matin, je recevais Olivier Dussopt, on sent bien que c'est très très compliqué. Enfin, je veux dire, nous, on s'arrache tous les cheveux pour essayer de comprendre. Je ne sais pas si vous avez compris exactement les...
Je ne sais pas.
Les tenants, alors on voit bien le principe, le grand principe, ça on l'a compris, mais après les différentes dates, le problème de financement, l'avis du Conseil d'État qui est quand même, certes il valide à 95%, mais il dit quand même qu'il y a des inquiétudes extrêmement importantes sur le financement et les conséquences, et savoir si un euro cotisé donnera bien le même droit. Qu'est-ce que comment vous analysez ça à l'OCDE ?
La réforme en elle-même, elle rejoint ce qu'on fait pas mal de pays dans l'OCDE, c'est-à-dire avoir un système par points qui est plus facile à piloter et qui est plus transparent et aussi plus juste, hein, parce que un euro cotisé doit ouvrir effectivement au même nombre de points. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va dans le sens de l'équité. Après, se pose effectivement la question du financement du régime à long terme. Aujourd'hui, on a en France deux cotisants, deux salariés pour un retraité. Ouais. Et en fait, d'ici 20 ou 30 ans, on va se rapprocher de 1 pour 1, hein, pratiquement. Donc il y a un très gros sujet démographique de financement, et ça, il faut le régler pour essayer de à la fois rassurer les salariés, c'est très clair sur l'avenir de leur retraite par répartition, et aussi éviter de léguer aux générations futures une dette uniquement pour payer les pensions. On a envie de créer de la dette pour investir dans l'éducation,
transition écologique,
l'éducation, la transition, mais pas pour payer les dépenses courantes. Donc il y a un très gros enjeu. Donc l'équilibre, voilà, on le voit bien dans la réforme. Maintenant, ce que pointe le Conseil d'État sur certaines incertitudes encore aujourd'hui sur le financement est totalement légitime. Notamment, on sait bien que lorsque on allonge, par exemple, la durée de cotisation ou la durée sur l'âge, qu'on retarde l'âge de départ à la retraite, ça a un effet très fort sur l'emploi des seniors, mais tous les seniors ne vont pas être capables de rester en emploi. Et donc, se pose la question de, ceux qui ne restent pas en emploi, mettons 1 sur 2 ou 1 sur 3 qui ne se maintient pas en emploi, vont aller vers d'autres régimes de protection sociale, l'assurance chômage ou effectivement les pensions d'invalidité, et se pose la question de l'équilibre financier de l'ensemble, pas uniquement du régime d'assurance chômage. Et la question, du coup, est légitime.
Oui. Est-ce que vous regardez, vous observez la France, mais pas seulement, hein, donc vous regardez aussi ce qui se passe à l'étranger. Est-ce que ce côté très anxiogène de cette réforme des retraites, d'abord, est-ce qu'elle est logique ? C'est une des réformes les plus structurantes depuis 1945. Là aussi, je cite le Conseil d'État. Est-ce que sur la manière dont tout ça, où les chiffres sont avancés, parce que la difficulté, c'est que les hypothèses n'arrêtent pas de changer. Donc même quand on prend des cas, ce que font certains de nos confrères dans la presse écrite, ils sont déjà plus bons le lendemain, parce que il y a de nouvelles hypothèses qui ont été insérées dans le texte. Est-ce que vous avez observé ça ailleurs ?
Alors on a observé ailleurs, quand il y a des grandes réformes comme ça structurelles, des temps de négociation et de discussion qui sont très longs un peu partout, parce que ça concerne énormément de gens. Aujourd'hui en France, les retraités, c'est quasiment un quart de la population, donc c'est des enjeux qui sont absolument énormes, et ça concerne tout le monde est concerné par le régime de retraite. Donc ça prend énormément de temps. En Suède, il a fallu 10 ans. Effectivement, de discussion, de négociation. Donc c'est pas totalement illogique, effectivement, d'avoir ces...
Trop vite.
En fait, c'est pas du tout étonnant. Je veux dire, au regard de ce qui s'est passé ailleurs, que ça ait pris énormément de temps et qu'ensuite on ajuste les paramètres au fur et à mesure des discussions, c'est totalement logique. Ça aurait été extrêmement surprenant qu'on arrive avec une réforme clé en main et que rien ne bouge parce que tout le monde était d'accord. On voit bien qu'on est en train de bousculer effectivement énormément de petits régimes, 42 régimes de retraite en France. Donc c'est extrêmement important et du coup très compliqué à réformer. Et donc tout le monde veut voir des ajustements. Et du coup, le dialogue social fait que qu'au fur et à mesure, on ajuste, on donne des concessions, etc. Alors, une des grosses questions, c'est au final, comme toute réforme structurelle, la réforme des retraites va coûter un peu d'argent, parce qu'on fait des concessions.
Ah bah, beaucoup, oui.
Alors, à nouveau, est-ce que effectivement les concessions vont compter plus ou moins cher que ce que la réforme structurelle elle-même va rapporter et à quel horizon?
Vous avez la réponse, Stéphane Carcillon?
Personne n'a la réponse aujourd'hui, c'est très compliqué puisque tout bouge comme vous l'avez dit tout le temps. Mais quand même, un des gros enjeux, c'est que cette réforme, elle apporte plus de transparence, c'est clair, plus d'équité, mais aussi qu'elle permette un financement de long terme du régime. Et pour ça, il faut que les concessions qu'on fasse ne dépassent pas les économies qui seront promises au moins d'ici 10 ou 15 ans.
Le 65 ans, l'âge d'équilibre en 2037, c'est jouable, c'est normal?
Vous savez,
ça fait partie des hypothèses justement, puisque vous parliez de
tous les 10 ans, on gagne 3 ans d'espérance de vie en France.
Tous les 10 ans.
Donc c'est pas complètement illogique. Je veux dire, la population vieillit, l'ensemble de la population active vieillit, et donc on a ce décalage dans le temps aussi qu'on a observé dans la plupart des pays de l'OCDE de l'âge de départ à la retraite ou de l'âge légal en tous les cas. Dans la plupart des pays de l'OCDE aujourd'hui, l'âge entre guillemets normal de départ à la retraite, c'est autour de 65 ans.
D'accord, donc c'est assez logique. Confiant, on va y arriver, on va pas y arriver?
Moi, j'espère en tous les cas qu'on va y arriver parce que c'est une réforme très structurelle et très, très importante. Le gros enjeu... Il faut prendre un petit peu son temps, mais le gros enjeu, comme je l'ai dit, c'est on va y arriver à quel coût? Est-ce que finalement le régime sera financièrement équilibré une fois qu'on aura aussi déduit le coût des différents ajustements et concessions qui ont été accordés dans le cadre de la réforme?
Merci Stéphane Carcillo. Moi, vous êtes un observateur, donc vous pouvez nous dire un peu comment vous voyez les choses, et les choses positives, on le voit bien. Merci beaucoup, le chef du département emploi et revenus à l'OCDE. Dans un instant, c'est To Be or Not To Be, en l'occurrence c'est Not To Be, c'est Dominique Moisy, conseiller spécial à l'Institut Montaigne. Évidemment, on reviendra sur le Brexit, mais surtout, c'est est-ce que finalement c'est une bonne nouvelle pour qui? Pour l'Union Européenne, pour la Grande-Bretagne? Qui va tirer son épingle du jeu? On voit ça dans un instant.
BFM Business, le club de l'heure H.
Club de l'heure H avec Dominique Moisy, conseiller spécial à l'Institut Montaigne. Dominique Moisy, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Je dirais, il y a plein de questions à vous poser. On va peut-être commencer par la plus évidente autour du Brexit. On a une petite musique qui commence à monter en disant finalement, pour la Grande-Bretagne, c'est pas forcément une si mauvaise nouvelle que ça. Et c'est peut-être aussi pour l'Union Européenne que ça va être finalement plus embêtant. Est-ce que vous entendez cette petite musique et qu'est-ce que vous en pensez, vous?
J'entends cette petite musique de plus en plus.
Oui.
Le climat psychologique s'est presque renversé.
Oui, psychologique, pas économique.
Psychologique,
il faut le dire, oui.
C'est pour ça que j'insiste sur ce mot. Il y a 6 mois, il y a 1 an, on disait pauvres Anglais, quand ils vont se retrouver seuls, ça va être terrible pour eux, leur coût, etc. Aujourd'hui, il y a presque une inversion. Le Premier ministre le plus fort en Europe, c'est le Premier ministre du pays qui part, Boris Johnson. Et on regarde de l'autre côté et on dit, mais regardez, l'Allemagne, elle est en pleine crise de transition. La France, on espérait, mais c'est beaucoup plus difficile pour le président Macron qu'on ne le pensait. On a, en ce moment, au 10 Downing Street, le Matignon
britannique,
le Premier ministre le plus fort, peut-être, des 50 dernières années. Il a plus de pouvoir que n'en avait Margaret Thatcher ou Tony Blair, parce qu'il n'y a personne en face. L'opposition travailliste s'est effondrée et il a un taux de confiance très très fort. Et avec cette interrogation majeure, mais est-ce que Boris Johnson, finalement, c'est un Donald Trump à l'anglaise, ou est-ce que c'est un conservateur plus classique, un Tory, dans la tradition des Tories, mais un peu excentrique et un peu radical?
Oui, mais très intéressant, c'est qu'il a une personnalité flamboyante, c'est-à-dire que... Et puis lui, il joue gros, donc il a tout mis pour que le Brexit se fasse, ça y est, il sera le Premier ministre du Brexit, donc son nom va s'inscrire dans l'histoire, et puis en plus, il a cette personnalité très décoiffante, un peu décoiffante dans tous les sens du terme, un peu comme Donald Trump du reste. Ça veut dire que... Oui, il est en train de remporter cette bataille-là. Il est en train d'emmener son pays. On ne sait pas très bien où, quand même. Mais bon, ça, c'est accessoire pour l'instant. C'est ça que vous nous dites.
C'est-à-dire, au fond, au niveau de la confiance.
Oui, très important.
Ça a changé de camp. Ouais. C'est-à-dire que les Anglais se disent, même ceux qui étaient radicalement anti-Brexit, mais au fond, ça peut peut-être marcher. Et de l'autre côté, l'Union européenne, ça ne marche vraiment pas. Et donc, c'est à nous de montrer que non, les fondamentaux économiques sont toujours de notre côté, la rationalité, c'est toujours de notre côté, mais vu nos divisions, vu notre crise de confiance, ce sera pas si facile.
Vous avez écrit un livre, je le cite souvent parce que je pense qu'il était très intéressant et vous êtes un observateur de la géopolitique depuis de nombreuses années, la géopolitique de l'émotion, hein, justement. Est-ce que on voit, il y a Donald Trump, qui a quand même des chances, malgré tout, de se faire élire, malgré vous, j'ai envie de dire, oui. Dominique Moisy, de se faire réélire. Donald Trump, Boris Johnson, des personnalités qui sont quand même très fortes. On voit, il y a aussi Salvini, même si là, il s'est fait battre. Enfin, est-ce que c'est un peu le nouveau profil de l'homme politique qu'on va peut-être voir arriver un jour en France? Parce que ce n'est pas le cas d'Emmanuel Macron.
Non, c'est toute la question. Oui. Qu'est-ce qui se passe quand un leader populiste prend le pouvoir dans une démocratie libérale classique? Est-ce que cette démocratie libérale devient une démocratie illibérale du jour au lendemain, ou est-ce que c'est beaucoup plus complexe? Et j'ai l'impression quand même qu'il y a une opposition structurelle entre Boris Johnson et Donald Trump. Ils donnent le sentiment d'être similaires, mais ils sont fondamentalement différents.
Pourquoi encore ?
Parce que Boris Johnson est un homme cultivé, qui s'appuie sur l'histoire, qui la comprend, qui est en fait d'une nature...
Oui, enfin, qui sait aussi s'asseoir avec force sur tout ce qui est de toute son éducation et surtout, quoi.
Il sait utiliser le...
Il ment.
Il sait utiliser le mensonge avec un talent exceptionnel. Mais je crois quand même que la nature profonde de ces deux hommes est différente.
Donc, pour vous, c'est plutôt ce qui se passe. D'accord, l'aspect psychologique, l'aspect confiance. Mais vous dites, il y a quand même... des chances que ça marche pour la Grande-Bretagne.
Oui, c'est-à-dire...
Tant mieux pour eux, hein,
oui, au fond, d'abord, la Grande-Bretagne n'a jamais été pleinement européenne. Je crois qu'il faut partir de cette spécificité britannique. Deuxièmement, il y a cette idée, mais au fond, on peut s'en sortir nous-mêmes. C'est une question d'énergie. Or, l'énergie, elle ne va marcher qu'au niveau de la souveraineté nationale. Mmh. Si on travaille pour nous, c'est bien. Si on travaille pour une gestion anonyme qui ne fonctionne pas, ça ne marchera pas. Et là, j'ai été très frappé, je reviens de Berlin, de mes entretiens avec les Allemands. Ils me disaient, mais au fond, on est obsédé par ce qui se passe en France aujourd'hui. Si ça ne marche pas en France, si le président Macron échoue, ne peut pas être réélu en 2022. Est-ce que nous, les Allemands, on va se retrouver comme les derniers des Mohicans, les derniers Européens? La Grande-Bretagne est partie, la Pologne est sur une autre voie, notre grand
notre
voisin
planète.
À l'Est. L'Italie, c'est pas clair, l'Espagne, c'est pas clair. On va pas défendre l'Europe tout seul.
Oui, donc ça fait...
C'est ça le...
Et les Allemands qui, eux-mêmes, ne savent pas très bien... qui va succéder Angela Merkel, parce que on voit bien qu'il y a des difficultés de leadership en tous
tout
les cas.
À fait.
On va
La personne choisie par AKK. Angela Merkel, AKK, ne s'est pas imposée jusqu'à présent. C'est le moins qu'on puisse dire.
Oui. Ursula von der Leyen, comment est-elle perçue en Allemagne, puisque juste une petite question, puisque vous rentrez d'Allemagne, on sait qu'elle n'avait pas bonne presse lorsqu'elle était ministre de la Défense, de manière un peu injuste, mais je ne sais pas, aujourd'hui, est-ce qu'on trouve que ses premiers pas à la tête de l'Union européenne sont plutôt bons?
Je dirais, en Allemagne, on la perçoit toujours comme la candidate de la France. Au fond, ce n'est pas qu'elle soit allemande qui est important, c'est que Paris l'ait choisie. Et donc, il y a une forme de distance avec elle.
Encore une fois, à Davos, c'est toujours intéressant, parce qu'il y avait Donald Trump qui était là, dans Angela Merkel, justement. Et un des thèmes qui émergeait, c'était de dire, au-delà du risque climatique, c'était de dire, il y a une guerre commerciale, tension commerciale entre la Chine et les États-Unis. Mais est-ce que, finalement, c'est un rapport de force, ça, il y a qui a été établi, chacun a pris ses marques entre la Chine et les États-Unis, un peu sur le dos de l'Union européenne. Est-ce que nous, et du reste, Donald Trump l'a dit dans une conférence de presse un peu improvisée, il a dit maintenant, je me suis occupé de la Chine, maintenant je vais m'occuper de l'Europe.
Oui. Je crois que les observateurs de cette question disent le véritable ennemi de Donald Trump, c'est pas du tout la Chine, c'est l'Union européenne, parce qu'elle incarne ce multilatéralisme qu'il déteste, qu'il abhorre. Et au fond, le vrai ennemi pour Donald Trump, c'est pas Xi Jinping, mais c'est Madame von der Leyen, dans la mesure où elle incarne le pouvoir bruxellois.
Oui, mais est-ce que l'Europe doit s'inquiéter de ça ou pas?
Tout à fait.
Parce qu'avec maintenant un cheval de Troie, en l'occurrence la perfide Albion.
Tout à fait. Je crois que l'Europe doit s'inquiéter massivement de cela. C'est-à-dire, la stratégie américaine consisterait à dire « Vous me suivez dans ma guerre commerciale avec la Chine et puis ensuite je m'occupe de vous. » Mais dans un premier temps, il dit « Vous me suivez ». Car si vous ne me soutenez pas, vous montrerez à quel point l'Alliance Atlantique n'a jamais existé, n'existe pas. Et il est essentiel dans un premier temps pour les Européens de prendre leur marque avec les États-Unis et de dire « nous définissons nous-mêmes notre relation avec la Chine
». Ce qui était aussi intéressant qu'un peu comme tendance qui émergeait, c'est quelque part, malgré tout, dans cette géopolitique mouvementée, le retour de la Russie, notamment au Moyen-Orient.
Oui.
Ça, c'est un fait assez marquant.
Oui.
Est-ce que vous partagez... Enfin, en tous les cas, c'est ce que disaient les observateurs.
Totalement.
Est-ce que vous le partagez,
Dominique
Moisy ?
Moi, j'étais, dernier trimestre, à Doha, au Qatar, et à Jérusalem, en Israël. Et dans les deux pays, il y avait la même inquiétude face à l'imprévisibilité des États-Unis, on se tournait vers Moscou. Voilà un pays fiable et on attendait la Chine. Donc c'était ça. Moins d'Amérique, beaucoup plus de Russie aujourd'hui, mais le vrai problème, le vrai pays demain, ce sera la Chine.
À propos de Chine, comment est-ce que vous regardez, observez la gestion par la Chine de cette, épidémie, enfin, il faut faire attention aux termes, mais du coronavirus, la manière dont c'est traité ou pas, parce qu'il y a, on sent qu'il y a un petit aspect de dire, nous on sait prendre les choses en main, on va vous construire un hôpital en 10 jours, tout le monde s'y met, regardez comment on fait, c'est ça la Chine.
Ouais. Je crois que oui.
Ouais.
Alors, la Chine a changé. C'est-à-dire que la Chine de Xi Jinping est passée d'un modèle autoritaire à un modèle totalitaire. On est vraiment revenu à l'époque de Mao Tse-tung. Deuxièmement, il y a cette...
Là, c'est assez violent ce que vous dites
quand
même.
Ouais. Tout à fait. Tout
bon,
à fait. Et le deuxième point qui me paraît essentiel, mais qui est le prolongement de celui-ci, est-ce que Xi Jinping n'est pas en train d'essayer de donner une leçon au monde en disant, vous savez, les systèmes démocratiques, pour faire face à des pandémies, c'est beaucoup moins efficace qu'un système autoritaire très dur à la Chine, à la chinoise. Donc je vais vous montrer. Et donc, est-ce qu'il a tendance à aggraver le caractère sérieux de cette crise pour dire « Regardez ce que j'ai pu faire en l'espace d'un mois ». Est-ce qu'il veut au contraire prendre les leçons de l'échec relatif du traitement du SARS en 2002 ? Sans doute, c'est un peu de ces deux phénomènes.
Ouais.
Mais il y a une dimension incontestablement politique dans le traitement par la Chine de cette pandémie. Moi, je sais faire, parce que le commandement n'est partagé par personne.
Oui, comme ça, ouais, très intéressant. Merci beaucoup Dominique Moisy, vous nous avez ouvert des pistes de réflexion. Parfois, on aurait envie qu'elles se referment. Enfin, en tous les cas, elles sont là. Merci d'avoir été avec nous, le conseiller spécial à l'Institut Montaigne. Dans un instant, on dira un mot peut-être sur la Chine, justement, avec Louis Gallois, qui est président du conseil de surveillance de PSA. Vous savez qu'il y a des usines déjà en Chine, dans cette région, qui est touchée, la région du Wuhan. Et surtout, il est co-président de la fabrique de l'industrie française, qui se porte bien. En tous les cas, c'est le message que lui, il porte. À tout de suite.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Notre invité, c'est un peu le commandeur de l'industrie française, Louis Gallois, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. On va rappeler que vous êtes président du conseil de surveillance de PSA et puis co-président de la fabrique de l'industrie. Vous allez présenter vos vœux, vous allez dire une fois ce que vous voudriez pour l'industrie française. Encore peut-être deux, trois petites questions d'actualité avant. D'abord, PSA, on sait être présent en Chine. Vous avez encore trois usines, justement, dans cette région.
À Wuhan, oui.
Oui, dans cette région de Wuhan où il y a cette épidémie de coronavirus. Comment ça se passe?
Est-ce que les actuellement, usines sont arrêtées? Nous sommes en train de rapatrier les personnels européens de l'usine, pas uniquement des Français d'ailleurs, mais européens de l'usine. Cette opération de rapatriement, à ma connaissance, se passe bien. Quant à l'usine, vous savez que c'est la trêve du Nouvel An chinois. On va voir dans les deux ou trois jours qui viennent, puisque cette période du Nouvel An a été prolongée de deux ou trois jours, on verra au-delà la reprise de l'usine, mais normalement l'usine doit reprendre.
Oui, et les travailleurs chinois, ils vont comment continuer à travailler?
Oui, ils vont continuer à travailler. La ville, Wuhan, c'est une agglomération de 11 millions d'habitants. Oui. Ils ne vont pas s'arrêter de vivre, ils vont continuer à travailler, c'est assez clair.
Oui, ben, sauf s'il y a un risque pour eux de santé.
Alors, mais c'est la difficulté de gérer une population qui évidemment, circule et qui porte potentiellement le virus.
Ouais. Autre grosse actualité, le Brexit pour l'industrie française. Est-ce que c'est... On a du mal à savoir si c'est une vraie menace, notamment dans les secteurs que vous connaissez bien, l'automobile, oui, bien sûr, l'aéronautique, ou est-ce que vous pensez que ça peut être une opportunité pour relocaliser? Comment vous évaluez la problématique?
Il va falloir voir, il faut être très pragmatique dans cette affaire. Je pense que nous aurons un Brexit organisé, ce qui est déjà quelque chose de bien préférable à ce qu'on a pu craindre à un moment, qui aurait été un Brexit complètement désorganisé, donc on va pouvoir régler les problèmes de douane, etc. Nous avons 700 camions au PSA qui passent tous les jours détroit. Donc, évidemment, nous sommes directement intéressés à la manière dont tout ça va circuler. Ensuite, on regardera comment les choses évoluent. Si ça se passe de manière organisée, normalement, on doit pouvoir gérer cela.
Alors, qu'est-ce que le Louis Gallois appelle organisé? C'est-à-dire que...
Organisé, ça veut dire que...
qu'est-ce que vous exigez dans le cadre, parce que ça se discute, ça y est, ça va se discuter à partir de lundi, justement.
Nous souhaitons d'abord que la fluidité des circulations puisse être assurée.
Ouais.
C'est quelque chose de très important pour nous. Deuxièmement, nous souhaitons qu'il n'y ait pas de droits de douane qui viennent faire obstacle à cette circulation des pièces détachées, parce qu'alors là, à ce moment-là, ça peut avoir un impact sur notre activité. Et nous allons essayer de voir aussi, il n'y a pas d'opportunités. Nous avons une marque en Grande-Bretagne qui est Vauxhall, qui est une marque complètement britannique. Je pense qu'elle a dans le cadre du Brexit, elle peut trouver un marché additionnel
en
Grande-Bretagne.
Oui. Oui, absolument. Un nouvel essor, parce que les autres constructeurs européens
vont
se retirer.
On va tous regarder, va attendre un peu. Je crois que personne ne va prendre de décision hâtive dans ce domaine, surtout si on a le sentiment que les choses se passent dans l'ordre. Mais il est évident que des questions comme les droits de douane, comme l'évolution de la livre, comme l'application des réglementations de sécurité, etc., des deux côtés de la Manche, tout ça va jouer. Et je pense que ce que nous demandons aux négociateurs, c'est qu'ils préservent les intérêts industriels des deux côtés de la Manche. C'est ça qui nous paraît.
Des deux côtés de la Manche.
Oui, des deux côtés, parce que nous sommes.
On pourrait dire de notre côté.
Nous sommes des deux côtés. Donc nous avons aussi des intérêts en Grande-Bretagne. Et je pense que c'est l'intérêt de tout le monde que ça se passe correctement pour l'industrie britannique également, que ça ne soit pas un désastre pour elle. Donc vous savez, la Grande-Bretagne.
Un désastre pour elle, ça pourrait être une opportunité pour nous.
Ça peut être une opportunité. On verra si dans quelles conditions. Je pense que surtout, il faut que ça se passe de manière ordonnée. Nous n'avons aucun intérêt à ce que un pays de la taille de la Grande-Bretagne, avec la proximité de l'Europe, connaisse des difficultés ou soit proie à des chaos que nous ne maîtriserions pas.
En même temps, vous pouvez quand même redouter un dumping social, un dumping fiscal.
Nous aurons l'occasion de voir ça et nous aurons l'occasion de constater aussi quels sont les droits de douane. Je l'ai évoqué, l'évolution de la livre. Tout ça va jouer.
Vous pourriez lâcher. vous êtes d'accord.
Mais je pense qu'il faut négocier. Il faut que l'Union européenne négocie de son côté. C'est évident. Nous avons aussi des intérêts de ce côté-ci.
Des deux côtés, comme vous dites. Mais alors, pour les constructeurs automobiles, je veux dire qu'ils soient français, allemands ou italiens, puisqu'en plus, on y reviendra bien sûr. Oui. On voit qu'il y a aussi une transformation incroyable de votre métier.
Oui, le métier est en train de changer complètement.
Complètement, et les investissements colossaux. Et puis encore, c'est des guerres commerciales qu'on évoque entre la France, enfin l'Union européenne, et les États-Unis. Est-ce que là, vous sentez un peu des divergences quand même entre les constructeurs automobiles européens et puis vous, constructeurs, mais pas uniquement PSA, mais même si pour l'instant vous êtes peu présent aux États-Unis, allez l'être.
il est clair que pour les Allemands, la discussion commerciale avec les États-Unis est absolument vitale, et on le voit, d'ailleurs, ça pèse très lourdement dans la position allemande. Ah, oui. Elle veut préserver les positions de l'automobile allemande aux États-Unis, et notamment la capacité de l'automobile allemande à exporter aux États-Unis. Ouais. Nous ne sommes pas dans cette situation, nous n'exportons pas aux États-Unis, ou de manière complètement marginale. Par contre, nous allons fusionner avec une entreprise qui est fortement implantée aux États-Unis, mais qui est une entreprise qui, lorsqu'elle est aux
FCA,
États-Unis...
FCA, Fiat Chrysler, en l'occurrence, comme le...
Oui, Fiat Chrysler. Et donc nos intérêts dans cette affaire de guerre commerciale ne sont pas directement impactés, nous, PSA.
Non, mais ça va l'être, parce que j'imagine que vous négociez, vous passez votre temps à négocier en ce moment avec les équipes de FCA, de Fiat Chrysler, donc j'imagine que c'est sur la table.
Bien sûr, on peut discuter de cela. Pour le moment, il n'y a pas... il y a des paroles que je trouve plus ou moins agréable quand on menace...
Violent. Moi, j'ai écouté Donald Trump à Davos, c'était violent quand même. C'était violent.
J'ai trouvé que les propos du président américain à Davos étaient franchement peu agréables. Et je pratique la litote, la langue de bois, comme vous dites. Ceci étant dit, il va y avoir une négociation. Et j'espère que la Commission va négocier de manière offensive. Et il y a un sujet sur lequel je suggère à la Commission de s'engager, c'est de discuter de l'extraterritorialité des lois américaines.
Oh là là, oui.
Je pense que ce serait un très bon sujet, puisque je pense que les États-Unis vont arriver avec une liste de demandes. Il faudrait que de notre côté, une liste de demandes. Moi, je pense que l'extraterritorialité des lois américaines doit faire l'objet
Mais il y a eu un rapport qui a été fait, vous vous rappelez, par Pierre Lelouch. il y a eu un... Enfin, je veux dire, c'est un sujet dont s'est emparé différents ministres. Puis on voit que, ça n'a pas avancé d'un iota.
Hein. Là, il y a une négociation. Il faut avancer les thèmes. Je pense d'ailleurs que la taxe sur les produits numériques... Pas les GAFA, sur les produits numériques, la taxe sur les produits numériques sera également sur la table. Ce sont des sujets où il faut que l'Union européenne se présente comme offensive, parce que du côté américain, ils vont être très offensifs.
Ouais. Mais en même temps, c'est la question du reste que je posais à Bruno Le Maire. Hein, est-ce qu'il faut mieux une taxe GAFA et avoir une guerre commerciale, ou pas de taxe GAFA ou taxe numérique et ne pas avoir de guerre commerciale?
La bonne solution, c'est de trouver l'OCDE.
On va dire ça. La France est-elle attractive pour l'industrie?
Est-ce qu'elle
redevient attractive?
La France est attractive. Nous sommes dans le classement de Ernst & Young au deuxième rang.
D'attractivité. Pour l'industrie, c'est moins le cas encore, quand on regarde. Pour l'industrie, c'est moins le cas.
Oui, mais quand je regarde les projets industriels, ils ont été en 2019 en légère augmentation. Ils ont baissé en Grande-Bretagne et en Allemagne. Ce qui veut dire que la dynamique est plutôt de notre côté. On n'est pas encore là où on devrait être, notamment en volume, puisque vous savez que nous sommes le deuxième en attractivité en nombre de projets, ou même le premier en nombre de projets, en valeur, nous sommes quatrième. Donc ça veut dire qu'il faut que nous attirions des investissements plus importants. C'est un enjeu totalement décisif, parce que le problème de l'industrie française, c'est... certainement des problèmes de compétitivité. Mais son problème, c'est qu'elle est trop petite. Et que donc, il faut installer en France des capacités de production. L'industrie française n'est plus capable de faire face à la demande intérieure et à la demande extérieure par sa taille. C'est plus tellement un problème de compétitivité, c'est un problème de taille de l'industrie. Nous ne sommes pas les seuls. Les Britanniques et les Américains sont dans la même situation que nous. Ça veut dire que le déficit de notre banque commerciale est structurel. C'est pas
qu'on exporte mal, c'est qu'on ne peut pas produire.
C'est qu'on ne peut pas produire. Ouais. Actuellement, les capacités de production sont pratiquement saturées. Ouais. Et il n'en reste pas moins que nous avons un déficit commercial très important. Ça veut dire que nous n'arriverons pas à faire face à la demande. Donc il faut installer en France des capacités de production. C'est totalement décisif.
Oui. Comment faire ? On voit que c'est un sujet, je veux dire, là-dessus, vous vous retrouvez avec le gouvernement. Comment faire ? Avec quels moyens ? Est-ce qu'il faut, je ne sais pas, il faudrait que PSA, au lieu de construire des usines en Chine, la construise en France, reconstruise en France une nouvelle usine, par exemple, non ?
Il faudra toujours construire des usines à l'étranger, parce que dans un certain nombre de pays, il faut être sur le marché. Il faut être sur le marché. Mais il y a des éléments d'attractivité. Ouais. La France, c'est un grand marché. C'est un endroit où il y a une main-d'œuvre qualifiée et surtout et d'excellents ingénieurs. Et c'est un pays qui attire la qualité de ses services publics, de ses infrastructures, et puis parce que c'est un pays où l'image générale, c'est qu'il fait bon vivre. Et ça, pour attirer une entreprise, c'est très important. Donc je pense que nous avons des atouts. Il faut les consolider. C'est clair. Et un moyen.
Qu'est-ce que vous demandez en plus ? Parce que il y a toujours la question aussi de la baisse des charges.
Oui, alors
sur les salaires, voilà, jusqu'au bas.
Sur la compétitivité, nous avons encore un problème lourd qui est celui des impôts de production, qui sont handicap certains. On paye des impôts avant d'avoir la recette et on les paye de manière suffisamment significative pour que ça soit un handicap. Cette question. Le gouvernement en est conscient, il regarde la question, je pense qu'il a des problèmes un peu compliqués.
Vous savez mieux que moi que finalement, il ne faut pas s'attendre à grand-chose en 2020, voire 2021, parce qu'il y a des...
On ne nous laisse pas espérer des merveilles, je pense que la prise de conscience, c'est toujours salutaire. Alors, ensuite, vous savez, défendre des services publics dans un certain nombre de villes, ça fait partie de l'attractivité du territoire. Défendre le développement des infrastructures, le numérique. Vous avez en France, vous avez encore des régions de zones blanches.
Ah bah,
pour le téléphone et pour Internet.
Oui.
Tant qu'une région, un territoire est en zone blanche, il n'a aucune chance de pouvoir attirer une activité industrielle, de quelle qu'elle soit. Or, l'industrie, c'est la chance de nos territoires. Parce que l'industrie ne va pas s'installer dans les grandes villes. Elle s'installe sur les territoires parce que c'est là où elle trouve le foncier, c'est là où elle trouve l'espace nécessaire. Donc,
la fabrique de l'industrie, vous aviez une mesure, d'accord. Les impôts de production, on a compris, on en parle souvent, mais je ne sais pas, une mesure. La simplification administrative, là il y a eu des pôles. Agnès Pannier-Runacher, ministre de l'Industrie, elle a créé des zones où, j'ai plus le terme exact, il y a 14 zones, je crois, comme ça, où on arrive à un seul contact. Quoi.
Pour l'attractivité, une seule mesure, il y en aurait d'autres, mais une mesure importante, c'est de faciliter les procédures d'installation.
Oui, voilà,
ne prenne pas 6 mois ou 1 an, mais qu'on puisse avoir très rapidement les autorisations nécessaires ou les refus nécessaires, parce qu'à ce moment-là, on va ailleurs. Oui. Mais très rapidement les autorisations nécessaires. C'est beaucoup trop long, ça dissuade les gens. Vous vous souvenez de Safran,
qui a très bien négocié, en l'occurrence.
Qui a bien négocié. Parce que c'est une grosse entreprise.
Oui, et puis qu'il avait fait
très emblématique.
Et quand on est une PME, une ETI, on n'est pas dans le même rapport.
Non, on n'est pas. Il faut que ça soit fait pour les PME et ETI. Et on attirera les ETI et les PME étrangères lorsqu'on leur dira, en 15 jours, vous avez vos autorisations.
La transition écologique, ça c'est un point très important, évidemment pour l'industrie, parce qu'elle est pointée du doigt. Pour l'automobile, c'est gigantesque. Est-ce que vous avez évalué à combien ça va, le montant des investissements nécessaires, par exemple chez PSA pour ça, serait quoi ?
Nous allons, comme vous le savez, nous engager dans la fabrication de batteries avec
Vous traînez des pieds.
Avec la SAFT. Ouais. Non, on ne traîne pas des pieds. On a, le conseil de surveillance a voté pour. D'ailleurs, je n'ai pas très bien compris pourquoi dans la presse il y a quelque chose. C'est assez curieux parce que nous avons voté pour. Et donc maintenant, le processus est complètement engagé.
L'Airbus des batteries, pour reprendre.
Enfin, l'Airbus des batteries,
je parle à l'ancien président d'Airbus, c'est pour ça que je permets de faire cette allusion.
Nous allons installer des productions de batteries en France et en Allemagne. D'abord en France et ensuite en Allemagne. Et donc ce projet est soutenu par l'Union européenne. Tout au moins l'Union européenne autorise les États à donner des subventions pour ce projet, parce que c'est un projet dit important d'intérêt européen. Et ce sont des investissements massifs, c'est clair. Une unité de 8 gigawattheures, c'est 500 millions. Quand vous en mettez 4, 6, 8, vous faites l'addition. Et en plus, là-dessus, vous devez ajouter un effort de recherche qui doit être considérable parce que la batterie va beaucoup évoluer dans l'avenir. Donc ce sont des investissements extrêmement importants. Nous avons été obligés, oui, nous, de transformer des usines qui étaient thermiques pour qu'elles fabriquent des moteurs électriques. Tout ça, évidemment, coûte très cher. Et d'ailleurs, vous entendez un peu moins parler du véhicule autonome actuellement.
Oui,
tout le monde est centré là-dessus.
Oui, sur le véhicule électrique notamment, mais avec des perspectives qui sont peut-être moins fortes que ce à quoi on s'attendait sur le véhicule électrique.
Pour que les clients choisissent des voitures électriques,
il faut qu'il y ait des prises.
Il faut des bornes, oui, de recharge. Bornes, oui. Bon, ça c'est la première chose.
Et la même borne si possible, pas quatre bornes différentes.
Et il n'y en a pas assez. Et deuxièmement, il faut que ce soit un prix abordable. Et donc, il faut, comme vous savez que les véhicules électriques vont coûter plus cher à construire, il faut que l'électricité soit à un prix abordable pour permettre aux clients de faire leurs calculs et de vérifier que ça ne coûte pas plus cher d'avoir un véhicule électrique qu'un véhicule thermique. On n'en est pas encore là. Et je pense que les États vont avoir à se poser la question de savoir s'il faut maintenir des bonus pour les véhicules électrifiés, que ce soit les véhicules hybrides ou les véhicules tout électriques.
Vous évaluez à combien les investissements nécessaires dans les 5 prochaines années, par exemple chez PSA?
D'abord, je ne vais pas vous donner de chiffres trop exacts, et en plus, je n'ai pas...
Non, mais c'est un ordre de grandeur.
C'est 500 millions par an, un ordre de grandeur, 500 millions par an.
Oui, j'aurais dit beaucoup plus.
Uniquement sur l'électrification.
Oui, mais
uniquement sur l'électrification. Ah oui, mais on n'a pas que l'électrification.
Ben non, justement, oui, moi j'aurais dit...
Uniquement sur les... Et en addition de ce que nous faisions jusqu'à présent. En addition de ce que nous faisions. Ça veut dire, c'est très lourd, parce que ça veut dire plus de... Nous augmentons nos investissements de peut-être 15%.
Comment vous travaillez à cette fusion? Vous avez des réunions, ça avance bien, ça progresse.
Alors,
bien.
Vous savez,
on a reçu Carlos Tavares au moment des BFM Awards, donc début novembre.
La fusion est une affaire considérable. On va créer un groupe de 170 milliards d'euros, présence des deux côtés de de l'Atlantique, en Europe et aux États-Unis. Les décisions ont été prises des deux côtés pour aller à cette fusion. Il faut maintenant obtenir les autorisations. Autorisation de Bruxelles, autorisation américaine, le CFIU, c'est-à-dire le comité des investissements.
Oui, difficile avec la présence de l'actionnaire chinois. Oui.
Et ensuite, on va être coté à New York, donc il y a toutes les procédures de cotation à New York d'une nouvelle société. Fiat Chrysler l'est actuellement, mais il va falloir une nouvelle société. Donc ce sont des procédures qui vont être longues. Pendant cette période, nous n'avons pas le droit de faire un certain nombre de choses avec Fiat Chrysler, puisque nous sommes toujours concurrents, et nous ne savons pas quelles seront les décisions finales prises par les autorités qui doivent approuver cette opération. Donc nous sommes à la fois au travail, mais avec des avocats, pour être bien sûr que nous ne franchissons pas la ligne qui
Vous avez déterminé déjà ce que pourrait vous demander Bruxelles et ce que vous pourriez faire pour avoir feu vert de Bruxelles.
Nous pensons que nous avons un bon dossier pour Bruxelles.
Donc ça veut dire avec des cessions importantes?
Pardon?
Avec des cessions importantes ou des concessions?
Nous ne pensons pas qu'il y ait des concessions importantes. Il y a peut-être des ajustements, et ces ajustements, on est évidemment prêt à les faire.
Oui, vous êtes évidemment prêt à les faire. Du côté des États-Unis, la présence de l'actionnaire chinois...
La présence d'un actionnaire chinois ne paraît pas être un obstacle. De toute façon, d'autres constructeurs ont des actionnaires chinois.
C'est sa présence au Conseil.
C'est la présence au Conseil poser un problème. Les Chinois ont accepté de diminuer leur participation pour être en dessous du seuil où on a accès au Conseil. Nous avons eu une négociation avec eux, bien sûr. Il a fallu leur démontrer l'intérêt qu'il y avait à cela.
Donc pour vous, tous ces problèmes-là, de votre point de vue, évidemment, après, il faut sont réglés.
Nous ne voyons pas
d'espionnage là aux États-Unis.
Nous ne voyons pas qu'il y ait vis-à-vis du CFIU, ce fameux comité des investissements étrangers, de difficultés particulières. Mais il va falloir démontrer notre.
Et ça, le CFIU, c'est bientôt. Donc vous pensez
le CFIU s'est engagé.
Je veux dire le résultat des courses.
C'est plusieurs mois.
Hein. Oui. L'histoire d'espionnage là aux États-Unis, c'est. Voilà, c'est enterré.
C'était pas une histoire d'espionnage, c'est une histoire de corruption.
Nous avons fait toutes les analyses
juridiques possibles, et nous pensons que cette affaire n'a pas un impact massif, c'est un impact limité et bien cantonné.
Louis Gallois, est-ce que vous avez été surpris lorsque, j'imagine que vous avez peut-être écouté à la conférence de presse de Carlos Ghosn,
est-ce que vous avez été surpris? Alors là, je vais sortir mon joker.
Oui, non, juste sur un point, parce qu'on a tous un peu surpris en disant, c'est simple, j'allais signer avec John Elkann en janvier, avant mon arrestation, la fusion avec Renault et FCA. Est-ce que, je ne sais pas, vous pouvez nous confirmer que ça a été jusque-là?
Ce que je peux vous confirmer, c'est que Renault et FCA ont négocié.
Oui, mais entre négocier et puis...
Et que même c'est allé jusqu'au conseil d'administration de Renault, parce que ça, c'est une notoriété publique. Je ne sais pas ce qu'a fait M. Ghosn, où il en était auparavant.
Oui. Donc, et tiens, juste une dernière question là-dessus. Qu'est-ce que vous allez devenir, vous, Louis Gallois, dans ce nouvel ensemble? Parce que c'est John Elkann, a priori, qui va devenir dans le nouvel organigramme.
Moi, vous allez rester. Je vais disparaître avec l'entreprise PSA. Donc,
non, vous aurez de nouvelles fonctions, non?
Mais pas du tout. J'ai un âge canonique. Et en plus, j'ai pris une année hier, donc. Tout cela fait que je pense qu'il est le moment. Je vais être président jusqu'à la fusion, c'est-à-dire encore pendant à peu près un an, et puis après, d'autres prendront la suite, et le couple John Elkann, Carlos Tavares, est armé pour faire cette énorme opération, extrêmement excitante, mais en même temps, c'est un vrai défi.
Vous dites que PSA va disparaître, le nouveau nom, il est choisi?
Non, le nouveau nom n'est pas choisi, PSA va disparaître et FCA va disparaître, il y aura un nouveau nom.
Il y a un nouveau nom. Et ce nouveau nom, il sera
quoi? Non, il y a du travaux en cours et je ne suis pas informé de l'avancement des travaux.
Est-ce que vous êtes... je m'en souviens, une phrase, vous me l'avez dite, c'était il y a longtemps, vous avez dit, mais en France, c'est simple, s'il n'y a pas de grève, ça veut dire que c'est inquiétant parce qu'on ne réforme pas. Lorsque vous voyez tout ce qui se passe, là, les mouvements sociaux, qui n'ont pas d'impact sur l'attractivité de la France, hein, il faut quand même voir, ça, on l'a vu avec
oui,
France.
Je ne suis pas sûr que ceci ne joue pas quand même comme bruit de fond. Ce n'est pas obligatoirement un bruit de fond positif.
Oui. Oui. Cette réforme des retraites, vous trouvez que ça dure trop longtemps, c'est aussi mal pris?
C'est très très long et je pense que le problème c'est que l'opinion publique ne comprend pas ce qui lui arrive et personne n'est capable de dire à quelqu'un votre retraite va augmenter ou votre retraite va diminuer, sauf les cas extrêmes. Et donc c'est très difficile. Ceci étant dit, moi personnellement, j'avais été assez convaincu par l'idée d'un système universel, aussi universel que possible, on sait très bien qu'il y aura des exceptions, et un système par points. J'ajoute que je crois à peu près inéluctable qu'un jour, il y a un allongement de la durée de travail. Ceci suppose deux choses. La première, c'est qu'on soit capable que les entreprises fassent travailler les seniors jusqu'à leur retraite dans des postes qui soient adaptés à eux. Et je pense que ça, c'est absolument essentiel. Et la seconde, c'est qu'il y a une discussion sur la pénibilité, parce qu'on ne peut pas... J'ai écouté ce matin M. Berger parler des bûcherons. Il est clair qu'un bûcheron, ça ne pourra pas prendre sa retraite au même âge qu'un cadre.
Ouais.
Ce n'est pas le même métier.
Et à la SNCF aussi, la question de la pénibilité, vous considérez qu'elle était bien?
Sur la SNCF, je n'ai pas d'avis. C'est une entreprise que j'ai connue, mais il y a tellement longtemps, vous savez... tout oublié.
Oui, mais là, il n'y a plus de régime spécial.
Il n'y a plus de régime spécial. Il n'y aura plus de régime spécial.
Oui, ça, c'est au moins...
De toute façon, c'était acquis à partir du 1er janvier pour les nouveaux entrants qui sont régime général.
Je reviens sur un point que vous avez dit, comme ça, ça nous permettra de conclure sur l'industrie, puisque je rappelle que vous êtes co-président de cette fabrique de l'industrie. Qu'est-ce qu'il faudrait pour des grands groupes investissent en France, créent des usines en France?
Des grands groupes n'ont aucune difficulté à investir pour la recherche et le développement.
Oui, mais ça parce qu'il y a un CIR.
À la fois parce qu'il y a le CIR et parce qu'il y a des ingénieurs de très grande capacité.
Oui.
Il faut les amener à investir dans de la production. Et pour la production, il faut à la fois évidemment des coûts qui soient acceptables.
Oui.
On sait très bien qu'on n'aura pas les coûts de pays en développement, mais des coûts acceptables. Et deuxièmement, que nous ayons un écosystème qui soit accueillant pour ces entreprises. C'est absolument essentiel. Les grandes entreprises recherchent des écosystèmes accueillants. Nous avons un argument, c'est que les cadres sont heureux de venir habiter en France. Ça, c'est essentiel. Et je crois que tout cet écosystème, il faut vraiment le soigner. Et il faut que la France reste un grand pays de recherche, parce que c'est quand même ça aussi qui attire les grandes entreprises. Le numérique va aider à cela, parce que le numérique va faire que le coût du travail ne va plus être un élément absolument décisif dans les coûts. Ça va se faire progressivement. Mais le numérique est certainement un élément qui peut rendre leur compétitivité pour des sites de production à des économies très développées comme la nôtre.
Ah oui, très intéressant ce point-là. Merci beaucoup, Louis Gallois, d'avoir été avec nous, plaidoyer pour l'industrie, le commandeur de l'industrie. Je trouve que ça vous va très bien. Merci, vous êtes président du conseil de surveillance de PSA et puis co-président donc, de Fabrique de l'industrie. Merci. Voilà, c'est la fin de l'orage. On se retrouve bien sûr demain. Bonne journée.